Passagem de Nível, com Arthur Silva.
Bonjour à toutes et à tous, Passage à Niveau, votre compagnie jusqu'à 14h. Ce dimanche 30 novembre, le menu de la première heure Téléthon 2025. Ça s'approche, ça sera les 5 et les 6 décembre et on a dans les studios 4 invités. Après, on parlera à partir de 13h sur les élections présidentielles au Portugal. Ce sera le 18 janvier. Hier, on a reçu l'amiral Eric Gouveia-Mel, candidat indépendant. Et après, on va parler de concert de Noël, mais de piano portugais. Mais enfin, on aura le temps. Avant tout, Amalia Graf-Rafi, je m'excuse, Tony Gum, Monsieur Cyril de Becquier, Madame Stéphanie Rock, merci d'être là, et parce que je sais que c'est dimanche, c'est l'heure de déjeuner, mais merci à tous d'être parmi nous.
Merci de vous avoir invité. Non.
Alors, je vais peut-être commencer avec Monsieur Cyril de Becquier, administrateur AFM Téléthon. Et vous êtes père de Maxence. Maxence, qui est une maladie qui vous dit, ah, vous avez nous expliqué ça. On commence par vous. Alors, Téléthon 2025. Ensemble, faisons bouger les lignes.
Exactement. C'est le slogan de cette année. Pourquoi faisons bouger les lignes? Parce que ça reste encore maintenant nécessaire. On a beaucoup progressé. On pourra en parler peut-être un peu plus tard, notamment par rapport à l'un des ambassadeurs qui est Noé et qui a bénéficié d'un traitement de thérapie génique dans le cadre de sa maladie sur la myotrophie spinale. Donc ça, c'est vraiment un résultat exceptionnel et on est ravis. Mais la route est encore longue, il y a encore 7000 maladies rares, dont 95% sont sans traitement. C'est la raison pour laquelle, plus que jamais, il faut encore continuer à faire bouger les lignes.
Mais il y a quelque chose qui a avancé en 2024. Hein. C'est joli bien, premier résultat prometteur de l'essai de thérapie génique mené par Généthon pour la myopathie de Duchenne.
Exact, là aussi. Alors là, c'est très 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 prometteur. Vous vous souvenez peut-être l'année dernière du petit Sacha qui était ambassadeur et qui a bénéficié dans le cadre d'un essai d'un traitement de thérapie génique. Il y avait 3 enfants qui ont été traités. Les résultats sont juste extraordinaires. Le petit Sacha, maintenant il a 9 ans et il y a quelques jours, il a réussi à monter au deuxième étage de la Tour Eiffel. C'est-à-dire qu'il a gravi 674 marches tout seul, sans aide. Et c'est tellement extraordinaire que aujourd'hui, il y a plus d'êtres humains qui ont posé un pied sur la Lune que d'enfants atteints d'une myopathie de Duchenne capables de monter par les escaliers au deuxième étage de la Tour Eiffel. Donc maintenant, il va falloir confirmer ça dans une nouvelle phase de l'essai. Cette nouvelle phase, elle va s'étaler sur plusieurs mois, peut-être même plusieurs années, et ça va coûter 120 millions d'euros. Donc là encore, une raison de plus de pouvoir faire bouger les lignes, on a besoin d'argent.
Alors, je souhaite la bienvenue également, Madame Stéphanie Rock. Louise, alors vous, elle a 11 ans actuellement et sa maladie a paru, elle avait 3 ans, c'est ça?
Oui, tout à fait. Bonjour. Donc, je suis la maman de Louise qui vient d'avoir 11 ans et donc qui est atteinte d'une dystrophie musculaire avec une mutation du col 06.
Ça mérite une petite explication. Je peux résumer. En effet, c'est une faiblesse musculaire.
Exactement. C'est une faiblesse musculaire qui est apparue donc dès l'âge de 3 ans avec des signes bien particuliers, surtout quand elle essaie de se relever en fait de la position assise par terre. On appelle ça des signes de Gowers. Et ça a évolué un petit peu. Et aujourd'hui, Louise a de grandes difficultés pour monter les escaliers, courir. Sauter à pieds joints. Et en gros, elle a 20% de capacité musculaire totale dans le corps. Mais elle est scolarisée dans un collège ordinaire à Saint-Maur-des-Fossés, le collège Saint-André. Et tout se passe bien pour sa scolarité et socialement également avec ses camarades.
C'est pas évident parce que les enfants malades, des fois, dans les écoles publiques, on a du mal à les accepter, c'est pas évident. Mais alors, vous, et bon, il y a Louise, bien entendu, et le Téléthon.
Oui. Le Téléthon, j'ai eu la chance de rencontrer Amalia, ici présente, c'était l'année dernière, pour m'investir un petit peu dans le Téléthon, avec Louise, hein, Louise qui voulait vraiment s'investir aussi pour participer aussi à trouver des remèdes, hein, à guérir les personnes atteintes de maladies neuromusculaires. Donc j'ai rencontré Amalia et on a décidé d'organiser un loto caritatif qui aura lieu le 10 janvier à la salle des fêtes de Saint-Maur-des-Fossés. Donc, je vous attends tous très nombreux. Il y aura beaucoup de lots à gagner.
Il faudrait revenir tout au moins par téléphone.
Oui.
Leur faire un petit coucou. C'est le 10 janvier.
Avec grand plaisir.
Bon. Alors, Amalia, justement, vous êtes la coordinatrice du Téléthon, AFM Téléthon du 94. Comment ça se présente cette année? Bon, je sais que c'est un marathon. Après, on parlera avec le parrain. C'est un marathon, un autre.
Oui, bon dia. Oui, ça a bien commencé et ça commence même tout à l'heure après Radio Alpha avec Tony et Anna. Nous allons partir à Fontenay-sous-Bois où il y a une association portugaise à RCF qui va faire du folklore. Il va y avoir une animation folklore. Et déjà hier, il y a eu des animations. Je suis allée à Saint-Maur justement. Vous savez, le Téléthon maintenant, c'est quasiment toute l'année. Et en plus, au mois de janvier, je pensais être tranquille. Et voilà que Stéphanie me dit, maintenant, ça sera le 10 janvier. Donc, il n'y a pas de problème, on sera là, bien sûr. Donc, cette année, on a encore de nombreuses animations qui ont lieu. Et vraiment, on remercie tout le monde parce que comme ils viennent de vous expliquer, Cyril et Stéphanie, c'est très, très important. Il faut de l'argent. Vous savez que ça coûte très cher. Il faut de l'argent pour qu'on puisse avancer dans ces maladies. Et on a des résultats, vous le voyez bien, hein, chaque année maintenant. On a des résultats, mais il y a encore tant d'enfants qui attendent.
Alors, je ne vais pas faire l'histoire de l'AFM Téléthon depuis 1958. Hein.
Oui.
L'aventure a commencé il y a déjà un certain nombre d'années. Alors, je ne compte plus les années. Tony Gama est parrain du Téléthon en 94.
Oui, moi, ça fait 25 ans que je tourne avec ma complice, avec Amalia. C'est une fête extraordinaire, la fête de la solidarité. Je suis toujours présent, je serai tant que Dieu me prêtera vie, parce que je trouve que c'est extraordinaire et grâce à tous ces gens bénévoles, on commence à voir, ça fait un moment qu'on le voit, la guérison elle avance, mais très lentement, mais ça c'est normal. Il aurait fallu que ce soit en Covid, vous inquiétez pas, tous les pharmaceutiques ils vont s'y mettre pour gagner de l'argent. Comme ce n'est pas le cas, le Téléthon, l'AFM, tout seul, hein, ils arrivent à faire des médicaments pour guérir des gens. Et on commence à avoir la preuve de plus en plus. Donc, c'est normal que ma petite goutte d'eau soit là pour contribuer, pour motiver les gens à venir à la fête. Bien qu'il y a les gens travaillent, il y a je sais pas combien de personnes qui travaillent pour la cause toute l'année. Nous, c'est deux jours de solidarité. Je trouve que c'est formidable.
Mais Tony, parrain, qu'est-ce que ça suppose effectivement qu'on travaille parce que. Hein?
En réalité, je peux pas dire que j'ai du travail, c'est parler, accompagner Amalia, et voilà. De temps en temps, chantonner par ici.
Voilà, c'est la journée est arrivée justement.
Et voilà.
Non, il est très présent. C'est un très très bon parrain. Il est très présent et il a visité le Généthon. Il a fait beaucoup de choses. Il s'est vraiment impliqué et on a passé en plus de super moments. On en parle toujours à Radio Alpha avant. Ça nous manque, hein. Donc,
oui.
Monsieur le directeur de Radio Alpha, si on peut recommencer, on a passé ici des moments extraordinaires.
Des nuits entières.
Exactement.
Voilà. Avec les gens, c'est super sympa. Et ça motive les gens. Et les,
oui, oui.
Les gens aujourd'hui, ils ont la preuve, hein, ils ont la communication, ils savent que la guérison des maladies, il y a 4000, c'est ça, 4000 maladies.
En plus, oui.
Donc, 4000 maladies.
7000.
Mais bon, ce qui est important, c'est que, en travaillant pour une, ils arrivent à découvrir des choses pour guérir d'autres. Ça a servi au cancer, ça sert à beaucoup de maladies. Donc, c'est important d'aider et de continuer à aider. Et puis, il faudrait qu'on aille tous les ans, au moins 150 millions. On n'arrive pas, mais tant pis, un jour, peut-être.
Il faut toujours espérer dans la vie.
Quand on imagine que, tout à l'heure, vous parliez de 120 millions pour,
oui, pour la myopathie du chêne.
C'est colossal, mais finalement, c'est rien, c'est de l'argent. Alors, donc, si chacun donne sa petite goutte d'eau, ça ne coûte rien et on fait avancer. Ça peut servir, ça sert aux gens qui sont malades, mais ça sert à beaucoup de gens qui vont être malades, qui vont avoir la maladie un jour ou l'autre. Malheureusement, c'est comme ça. On n'y peut rien. Moi, j'ai connu des gens à 46 ans à avoir la maladie du chêne.
Monsieur Béguier. Parlons-en un petit peu de votre fils, Maxence. Mm-hmm. 24 ans. Alors apparemment, il a une maladie extrêmement rare.
C'est ça.
Il y aurait 3 cas dans le monde.
Pour le moment, oui. Pour le moment, il n'y a que 3 personnes qui ont été identifiées avec cette maladie. Donc, on parle de maladie rare. Là, je pense qu'on est sur du ultra rare. Il est aussi possible. Alors, nous, on a mis plus de 20 ans à avoir le diagnostic. C'est-à-dire que il a fallu 20 ans de recherche pour réussir à trouver quel était le gène qui présentait une mutation. Donc, il est possible aussi que finalement, il y ait un peu plus de personnes que ça dans le monde avec cette maladie. Mais pour le moment, vu que le gène a été identifié seulement il y a 2-3 ans, peut-être que année après année, on va se rendre compte qu'ils sont plus nombreux. Mais pour le moment, il y en a que 3, oui.
Alors, dans la vie de tous les jours, comment il fait Maxence pour vivre, et les parents aussi, parce que là, on parlera aussi avec Madame Roch, comment il sa vie à lui, c'est ça.
Alors, Maxence, dans le cadre de sa maladie, il a 5 atteintes. D'abord, donc, il a une myopathie, c'est-à-dire que aujourd'hui, concrètement, il vit en fauteuil roulant. Il ne peut tenir debout qu'une dizaine de secondes seulement. Ensuite, il a une atteinte auditive. Il a eu une double opération avec des implants cochléaires parce qu'il n'entend plus rien. Puis il a une atteinte visuelle, il est en train de perdre la vue, et puis il fait de l'hémophilie et de l'épilepsie. Donc dit comme ça, on peut s'imaginer que sa vie est un enfer. Pour autant, les enfants, lorsqu'ils naissent avec une maladie ou avec un handicap, ils développent une force de caractère extraordinaire. Et en fait, Maxence, il regarde devant, il regarde pas derrière, il s'apitoie pas. Et donc concrètement, aujourd'hui, il est étudiant, il est en alternance, il est en dernière année de master. Normalement, il devrait être diplômé au mois de juin. Et il se projette pour chercher un emploi et pour être autonome dans la vie.
Il prépare quel diplôme, exactement?
Il prépare un diplôme d'informatique, il fait du développement logiciel.
Alors, une petite question, est-ce qu'il apprend le braille?
Non, il apprend pas le braille, mais lorsqu'il était plus jeune, quand on a commencé à identifier que... parce que sa maladie, elle a été évolutive, il a pas eu les cinq atteintes dès la naissance. Elles sont arrivées les unes après les autres. Environ tous les 3 ans, il y avait une nouvelle atteinte qui se déclarait. Et donc, quand on a commencé à se rendre compte que il perdait l'audition, alors il a pas appris le braille, mais il a appris la lecture labiale. C'est-à-dire qu'il lit sur les lèvres, il sait du mouvement des lèvres de la personne qui parle pour pouvoir mieux comprendre et mieux entendre ce que les gens lui disent.
Alors, Madame Stéphanie Roch, Louise, elle est au collège, vous avez dit tout à l'heure, elle va, mais elle va toute seule, comment? Parce que pour les parents, parce que là, je pense que c'est toute la famille. Chez vous, comment ça se passe? C'est toute la famille qui est mobilisée?
Tout à fait. La famille est mobilisée, donc nous ne sommes que 3, nous n'avons que Louise, et avec mon mari, donc on se mobilise, on est 2, mais évidemment, il y a toute la famille, ça s'étale à tout le monde. Bien sûr, on est hyper soutenu, et dans le cadre familial, et dans le cadre amical, et ça je tiens à le dire, parce qu'on a des amis formidables qui nous aident. Et donc, Louise, elle a la chance d'avoir... un chauffeur avec Île-de-France Mobilité qui met à disposition un chauffeur à Louise qui l'amène au collège, qui la ramène du collège. Alors bien sûr, quand on peut aller la chercher, on y va, c'est notre grand plaisir. Ce qui nous permet, nous, de continuer notre activité à 100%, même si ça n'a pas toujours été le cas pour moi, ou quand on a su que Louise était malade, mais j'ai arrêté de travailler pendant une petite année. Le temps de mettre tout ce dont on parlait tout à l'heure, la MDPH, les dossiers, tout mettre en œuvre, c'est assez... fastidieux, et moi je remercie foncièrement la FM Téléthon parce que j'ai une tutrice qui nous a beaucoup aidé dans les démarches administratives, parce que pour des familles, quand vous apprenez la maladie, c'est quand même déjà un petit choc, et alors après il faut tout mettre en place et c'est pas évident. Donc heureusement, merci la FM Téléthon qui vraiment nous accompagne beaucoup dans ces process là.
Donc il y a aussi du conseil.
Oui, moi j'ai...
Madame Roch, excusez-moi.
Oui.
Trois quarts du temps, ça retombe sur la femme. Pourquoi pas, c'est pas l'homme qui doit s'en occuper. Non, mais ça c'est important, parce que finalement, je pense que je vais pas exagérer, mais enfin, la plupart du temps, ce sont les femmes qui sacrifient, entre guillemets, parce que l'enfant, pour moi, est sacré. Bon, c'est elle qui est, et l'homme,
Mais je pense que ça se fait naturellement. Nous, il n'y a pas eu de partage
parce
de tâches particulières.
C'est la maman.
Moi,
les
c'était un souhait.
Les femmes sont plus fortes que nous.
Ouais, exactement. Ouais. Nous sommes plus fortes. Mais non, c'est mais c'est vérité, vrai. C'est sûr, vrai. C'est nous mettons au monde un enfant, nous sommes fortes.
Mais c'est la vérité.
Et voilà, je pense que non, nous, il y a un très bon équilibre à la maison. Et c'est vrai que c'est moi qui ai voulu, voilà, c'est moi qui préférais m'occuper et qui m'occupe encore beaucoup des rendez-vous de Louise, parce que Louise a beaucoup de rendez-vous la semaine. Hein, donc elle a son chauffeur, elle va au collège. Et puis elle a des rendez-vous chez la kiné, chez la psychomotricienne.
Elle fait des petites fêtes avec les compagnies et les copines.
Complètement. Elle fait aussi de la danse. Hein. Attention, on peut faire plein de choses. Elle fait de la danse qui s'appelle Danse les yeux fermés. C'est une prof de danse qui elle-même est aveugle. Fabienne Ostan, qui est la marraine du Téléthon cette année pour la ville de Saint-Maur, que je salue. On va danser d'ailleurs pour le Téléthon samedi prochain, puisque moi aussi je fais de la danse avec Louise. Donc on fait de la danse les yeux fermés. Donc c'est une activité qui est superbe.
Ça change tout. Hein, parce
ça change
que là,
tout.
On a...
Exactement, mais c'est une activité qui est superbe. Et sinon, la vie de Louise est tout à fait ordinaire, mais adaptée. Voilà, moi, c'est ma grande phrase. Je dis que Louise a une vie ordinaire, mais adaptée. Voilà, on adapte beaucoup de choses et tout se passe très, très bien.
Alors, c'est bien d'être positif, c'est pour ça qu'on est là, hein, s'il vous plaît. Alors, ensemble, on fait bouger les lignes. Alors, la présidente de la FM Téléthon, je vais parler de Madame Laurence Etienneau, Hermon, faisons bouger les lignes de la recherche, les lignes de la médecine, les lignes de la citoyenneté, très important, les lignes de la solidarité, finalement, faire bouger les lignes pour la vie, Monsieur Biguet.
C'est exactement ça, c'est faire bouger les lignes pour la vie. Le but de notre association, dès le départ, ça a été de sauver des vies, donc avec une première mission sociale qui est la mission guérir, qui effectivement... nous occupe énormément et pour lesquels, encore une fois, comme on l'a dit à l'instant, il y a de très très bons résultats et d'autres extrêmement prometteurs. Et puis, comme ça a été dit à l'instant, avec l'accompagnement autour de Louise, il y a une deuxième mission sociale de l'association qui est la mission aider, parce que en attendant d'arriver à la guérison, eh bien, il faut s'occuper
accompagner.
Exactement.
Accompagner.
Il faut s'occuper, accompagner les personnes qui sont malades et leurs familles. On l'a dit à l'instant, hein, ça impacte les familles. Et la famille étendue, pas uniquement les parents. Alors tout à l'heure, vous disiez pourquoi c'est la maman, mais j'ai envie de dire, quand le cocon familial est préservé, c'est déjà génial, parce que malheureusement, souvent, face à la maladie et encore pire, face au handicap, souvent, c'est un divorce à la clé, et donc c'est encore pire. Donc là, quand on a un cocon familial préservé, c'est déjà exceptionnel.
Oui, c'est parce que je pense que même l'enfant en question, bon, qu'on aille 11 ans ou 24 ans, comme Maxence, je pense que c'est important parce qu'il sent finalement tout ce qui se passe autour, mais je sais pas qu'est-ce qui il se passe dans la tête de Louise là-dessus, parce qu'elle se rend compte que les gens bon, ont davantage attention, etc., etc. Et elle, non, mais pour elle, c'est naturel.
C'est transparent, oui, je pense que c'est naturel et transparent. Comme vous disiez tout à l'heure, ils sont comme ça depuis la naissance, en fait. Hein, donc, en fait, ils ont appris à vivre avec leur singularité, avec cette faiblesse musculaire. Elle a appris à vivre. Et les enfants ont une force de caractère, on le disait tout à l'heure, mais juste incroyable. Elle trouve des petits tips elle-même. Je me rappelle, quand elle était plus petite, pour enlever les capuchons de ses stylos, elle se mettait le stylo entre les jambes et puis avec ses deux mains, elle tirait le bouchon. Enfin, ils trouvent des choses incroyables. Nous, on a tendance, parents, à être un peu plus sur eux, mais moi, souvent, Louise, elle me dit « Laisse-moi faire, fais-moi confiance.
Ouais. » Pépé poule, papa poule, maman poule.
Exactement.
Mais madame, Roque, vous avez utilisé un mot, je pense que c'est très important, spécificité.
Oui.
Parce qu'en règle générale, bon, c'est l'handicap, hein.
Ouais.
Mais et ça, c'est voilà. Et là, on parle de solidarité et faire bouger les lignes pour la vie, parce que finalement, les gens malades, bon, c'est des gens bon comme nous, bon, mais ils ont un problème de santé, sans plus. Mais on a tendance à les écarter de la société. Comment est-ce que vous, comme parents, comment est-ce que vous vous sentez ça?
L'AFM, on s'est battu contre ça. Mmh. On s'est battu pour que nos enfants malades puissent avoir des projets de vie comme les autres, puissent aller à l'école comme les autres. Et aujourd'hui, il faut bien l'admettre, là aussi on a des victoires, parce que globalement, la scolarité, collège, lycée, ça se passe très bien. Post-bac, dans certains établissements, c'est un peu plus compliqué. Maxence, il a malheureusement eu des situations très compliquées dans des écoles qui n'étaient pas du tout à l'écoute de sa situation, de ses spécificités. Mais voilà, ça a quand même beaucoup, beaucoup, beaucoup progressé. Aujourd'hui, on arrive à avoir nos enfants qui ont une scolarité classique, Et ça se passe super bien. Et donc, de ce point de vue-là, il faut aussi admettre quand les choses avancent bien et...
Mais il faut continuer à se battre, quoi. C'est un combat...
C'est ça.
C'est un combat...
Permanent.
Éternel, c'est le cas de le dire. Amalia, dans le 94, qu'est-ce qu'il y a comme nouveauté aujourd'hui, cette année, au niveau des mobilisations? Parce qu'il y a toujours les pompiers.
D'ailleurs, hier, j'étais avec les pompiers de Saint-Maur.
Voilà, tout à fait, ouais.
Non, après, bon, des nouveautés, il y a plein de choses, hein. Il y a... Si vous voulez, je sais que dans une école à Ablon, par exemple, ils vont faire un karaoké. Mais comme je leur ai parlé que ça serait bien de faire un défi, etc. Donc, ils ont rajouté saut à la corde. Voilà, donc il va y avoir des gens qui vont sauter pendant un certain temps, etc. Ils font un défi. Voilà, donc c'est plus original, on va dire. C'est intéressant. Et là, tout à l'heure, j'expliquais, demain, je vais justement rencontrer une infirmière qui travaille sur un chantier avec 500 ouvriers. Et elle a décidé de vendre des gâteaux. Voilà, à ses ouvriers. Donc je vais aller la voir demain. Bon, on a signé un contrat pour lui amener des affiches, des ballons, l'encourager, etc. Donc ça, c'est aussi une nouveauté parce que...
Amalia, je m'excuse. Est-ce que finalement, bon, vous êtes la coordinatrice du Téléthon dans le 94, est-ce que l'éducation nationale met les mains dans la pâte? Parce que ça, c'est très important, parce que l'éducation, ça commence dès tout petit par rapport à sensibiliser les enfants pour comprendre que, finalement, les autres, ils ont une spécificité pour un handicap.
Non, on a une très grande mobilisation des scolaires. Alors, souvent, nous, dans le 94 et un peu ailleurs, ils font ce qu'on appelle la course du muscle, parce que, justement, les enfants sont très vite, ils comprennent que ces enfants ont des soucis avec le muscle, etc. Du coup, ils mettent leurs muscles au service de ceux qui n'en ont pas. Donc, ils adorent ça. Ils font des courses. Il y a, à Villeneuve-Saint-Georges, il y a 2 ou 3 ans, ils ont fait une course de 10 000 kilomètres en prenant...
10 000 kilomètres?
Rajoutez. Et du coup, c'était les enfants, ça allait de la maternelle jusqu'à la fin du primaire, et tout le monde participait,
tout le monde était très content.
Oui, et en plus, bon, là, évidemment, moi, je suis très émue de ce que Cyril a dit, bon, que je connais depuis des années, et puis Stéphanie, les enfants, tout ça, mais nous, c'est vrai qu'on est là vraiment pour faire entendre que le Téléthon, bon, bien sûr, on parle des maladies, etc., mais c'est aussi, justement, s'amuser, c'est aussi, justement, faire la fête. À l'époque, Pierre Tchernia avait dit, c'est le 14 juillet en hiver, et c'est ça, et c'est exactement ce que nous, on vit quand on va visiter les animations, on vit vraiment ce genre de choses, et vous avez de plus en plus, et on voit des jeunes, des moins jeunes, des défis, donc là, en effet, vous parliez des pompiers, oui, ça, des pompiers, on en a, Maison Alfort aussi, ça court, tout ça. Non, c'est une très très grande mobilisation, parce que les gens, ils aiment bien, c'est leur façon de participer, et ça fait, voilà, l'année prochaine, on va faire 40 ans de Téléthon. Je crois que les gens, ils sont attachés.
Ça ne nous rajeunit pas.
Ah non.
Loin de s'en foutre.
C'est pas grave.
Mais alors, justement, par rapport aux mobilisations, Monsieur Béquier, on sait malheureusement que les grands labos, maintenant c'est des multinationales, il y en a de moins en moins. Je parle du cas de Fleuron français qui est en train de disparaître. Je cite pas son nom, il ne mérite pas. Mais toujours est-il, c'est que le Téléthon, depuis le début, il a alerté, attention, il y a ça et ça et ça et ça. Et surtout, les recherches autour du Généton, etc., ça a permis finalement de soigner des choses que, bon, en principe, c'était labo de trouver. Bon, et finalement, il y a un petit problème quelque part, M. Béquier.
C'est en train de changer. Non, mais c'est en train de changer. Le point de départ, c'est ce que vous venez de dire. C'est-à-dire que, comme on parle de maladies rares, ça intéressait personne. Parce que qui dit maladies rares, même si elles sont extrêmement nombreuses, on a dit il y a 7000 maladies rares, donc il y a énormément de maladies rares. Au final, l'ensemble des personnes en France qui sont concernées par une maladie rare, c'est 3 millions de personnes. 3 millions, ça veut dire 1 sur 20. On parlait tout à l'heure d'une classe. Ça veut dire que dans une classe au lycée où il y a 40 élèves, statistiquement, il y a 2 enfants qui sont concernés par une maladie rare. Donc, à la fin, c'est quand même beaucoup. Moi, souvent, je dis, il n'est pas rare d'être concerné par une maladie rare. Les maladies, elles sont rares parce qu'il y a peu de personnes touchées pour une maladie donnée, mais il n'est pas rare d'être concerné par une maladie rare. Toujours est-il, c'est que les labos, ça ne les intéressait pas. Ça ne les intéressait pas parce qu'il n'y avait pas d'argent à gagner. D'une part, et d'autre part, ça les intéressait pas parce que au début, ils y ont pas cru. Au début, ils ont considéré que ce que faisait l'AFM, c'était peine perdue et qu'on jetait l'argent par les fenêtres. Alors je disais, c'est en train de changer. Pourquoi c'est en train de changer? Déjà, nous, on a prouvé que ça fonctionnait. Voilà. Aujourd'hui, sur l'amyotrophicinale, il y a un médicament avec un dépistage à la naissance qui fait que les enfants qui sont atteints de cette maladie, qui dans sa forme la plus grave, tue tous les enfants avant l'âge de 2 ans. Bah, aujourd'hui, il va y avoir un dépistage à la naissance. Ils vont être traités, en général, à moins autour de 20 jours de vie, donc extrêmement rapidement. Donc ça fonctionne. Et puis tout à l'heure, ça a été dit par le parrain, ça a été dit par Tony. Autour de la recherche sur les maladies rares, on a trouvé des traitements pour des maladies fréquentes. Et donc concrètement, actuellement, dans le monde, il y a plus de traitements de thérapie génique pour des maladies fréquentes, en l'occurrence des cancers, que pour des maladies rares. Donc les labos commencent à se dire, oulala, il y a un virage, il faut pas qu'on rate ce virage-là. La thérapie génique, c'est la thérapie du 21e siècle, qu'on peut dire ça comme ça. Et donc les labos commencent à s'y mettre. Pour autant, ça coûte extrêmement cher en recherche, ça coûte extrêmement cher à produire. Donc, là aussi, il faut faire bouger les lignes.
Alors, justement, jusqu'à quel point ces multinationales de la santé ne profitent pas, n'ont pas profité des recherches, des avancées du généton, et ils ont fait de l'argent avec. Alors, je vais poser une question, je vais faire l'avocat du diable, je m'excuse. Est-ce que la santé, ce n'est pas un bien public ?
Ça,
je pose la question.
Alors, c'est une très bonne question, ouais. Et c'est la raison pour laquelle le généton, au tout début, on est parti de rien, on n'y connaissait rien, on n'y comprenait rien. Les fondateurs de l'association, ce sont des familles qui ont vu leurs enfants mourir les uns après les autres. On était vraiment au point zéro, avec de l'incompréhension la plus totale. Les premiers efforts du Téléthon, ça a été, avec le généton, de fournir les premières cartes du génome humain. Et alors, vous disiez à l'instant, est-ce que c'est pas un bien public ? Eh bien, justement, le généton a publié, pour l'ensemble des scientifiques, les premières cartes du génome qui sortaient du généton. À l'époque, on s'est dit, avec ça, on les a mis sur la piste, on a fait le premier boulot à leur place, ils vont y aller. Bon, ça a été un peu plus long que prévu. Mais ils s'y mettent.
Est-ce qu'ils mettent aussi de l'argent, c'est-à-dire, est-ce qu'ils soutiennent l'AFM ?
Oui, financièrement. Non, alors ils soutiennent pas l'AFM. Mais quelque part, c'est parce que
ils soutiennent la recherche.
Ben, nous, on n'attend pas qu'ils soutiennent l'AFM.
Je sais bien.
Ce qu'on attend, c'est qu'ils fassent leur boulot. Nous, ce qu'on attend, c'est qu'ils fassent de la recherche, que grâce à ça, ils trouvent des traitements et qu'ensuite ces traitements soient disponibles.
Mais Monsieur Bécu,
ça vient petit à petit.
Je vais faire encore à nouveau l'avocat du diable. Qu'est-ce que font les autorités, l'État, le ministre de la Santé ? Parce que bon, c'est quand même eux. Ils ont été élus, ils ont un mandat, ils doivent respecter la santé, c'est un bien public. Bon, très bien. L'État, il se dégage de ça, il dit c'est très bien, le Téléthon, ça rapporte de l'argent, la recherche, ça aboutit à un certain nombre de victoires, etc., etc. Et l'État, au milieu de tout ça ?
Alors, l'État, il nous aide. Il nous aide comment ? Parce que, rappelons-le, quand vous faites un don au Téléthon, 66% de votre don est déductible des impôts. Donc, de ce point de vue-là, l'État nous aide.
Non, mais ça, c'est valable pour les associations, pour les journaux, etc.
Pas pour toutes. Pour les associations qui sont reconnues d'intérêt général, pas pour toutes.
Tout à fait. Ouais.
Donc, ils nous aident par rapport à ça. Ensuite, n'oubliez pas ce que j'ai dit. C'est-à-dire que, oui, c'est vrai, des fois, on pourrait se dire, et pourquoi l'État n'a pas fait le job ? Mais rappelez-vous ce que j'ai dit au départ. Personne n'y croyait. Ouais. Tout le monde a pensé que ce qu'on voulait faire, ça ne marcherait jamais. Qu'on était en train de jeter l'argent par les fenêtres. Donc, s'il n'y avait pas eu une association de malades et de familles de malades, l'association, elle est dirigée que par des malades et des familles de malades. N'avait pas eu ce côté combatif de dire, mais nous, on y croit et on va aller au bout, bah, l'État n'aurait rien fait puisque personne n'y croyait. Donc, il faut ça. Je pense que c'est pas plus mal, en fait, d'avoir à la fois un tissu associatif fort, et c'est la force de la France de ce point de vue-là. Et en même temps, un État qui aide, qui soutient, en l'occurrence, encore une fois, voilà, quand vous faites un don, il y a 66% qui sont déductibles, donc on peut pas dire que l'État ne fait rien. Mmh. Mais s'il y avait eu que l'État, je pense que, comme il n'y croyait pas, on n'en serait pas là aujourd'hui.
Madame Roque, qu'est-ce que vous en pensez de tout ce qu'on vient de parler ? Bon, est-ce que vous dites, c'est la politique ? Oh, finalement, est-ce que la politique, c'est notre vie quotidienne ? Je ne sais pas, qu'est-ce que vous en pensez ?
Oui, c'est notre vie quotidienne. Après, je rejoins assez Cyril. Hein. Je pense que, voilà, c'est en train de bouger. Alors, on sent que c'est en train de bouger. Donc, bon, voilà, moi, j'essaye de positiver, j'ai pas trop envie de débattre. Voilà, c'est en train de bouger. L'État aide, comme le disait Cyril, 66%. Les entreprises peuvent déduire 60% également. Donc, moi, je vois pour mon loto caritatif, j'ai fait appel et aux commerçants de Saint-Maur qui ont été fort généreux, mais aussi j'ai eu des entreprises indépendantes qui m'ont contacté via les réseaux sociaux et qui ont fait une petite participation. Donc voilà, donc si on y vient, et puis on va y arriver à bouger ces lignes.
Donc c'est grâce aux parents. Donc c'est grâce à nous, citoyens, que les choses avancent. Je peux tirer une leçon.
Oui, mais c'est pas grave. On a, de toute façon,
je
veux dire, il fallait le faire. C'est ça. C'est dire. Moi, je me rappelle à l'époque, mon frère et ma belle-sœur, quand ils ont appris pour leur petit Mathieu, on leur a dit, voilà, il va mourir, faites-en un autre. Et ça, c'est beaucoup de parents qui ont eu ça. Alors après, heureusement, justement, il y a des familles qui se sont battues, qui depuis tout le temps, qui ont essayé de créer. Qui, à un moment donné, quand ils ont voulu créer le Téléthon, ils sont allés chercher justement qu'est-ce qu'ils pourraient faire fonctionner, parce que eux, avant, ils allaient vendre des boîtes de chocolat, des choses comme ça. Et ça, évidemment, ils savaient bien que ça ne suffisait pas. Donc en effet, après, parce que comme l'a expliqué Stéphanie, comme l'a expliqué Cyril, ils sont concernés, c'est leurs enfants, donc c'est normal qu'ils se battent plus que les autres, on va dire.
Chacun de nous a un ami, une connaissance. Je pense qu'on est vraiment.
Moi, j'ai de la famille. Concernés. J'ai de la famille justement directe. Hein, c'est des choses. C'est pour ça que tout à l'heure j'ai parlé par rapport à l'éducation, au suivi, parce que c'est un parcours de combattant. Parfois pour faire en sorte que l'enfant puisse s'insérer dans le tissu scolaire.
Mais aujourd'hui, il y a un gros sujet qui concerne l'inclusion et la diversité. Hein. C'est très à la mode, mais en même temps, c'est quand même très très présent, que ce soit en entreprise ou dans les écoles. Hein. Moi, je vois Louise au collège, c'est quelque chose de très important qui est pris à cœur par l'établissement et par la directrice. Et puis voilà, donc du coup... C'est très fort aujourd'hui. Hein,
mais là aussi, on a fait bouger les lignes. Pendant un moment, on nous disait, vous exhibez vos enfants à la télé.
Ah oui.
Mais en fait, c'était pas ça l'idée. C'était pas d'exhiber nos enfants à la télé.
Non.
C'est que ces enfants, ils ont leur place comme tout le monde.
Exactement.
Et c'était ça le vrai sujet. Et aujourd'hui, il faut pas, et c'est le cas maintenant, encore une fois, faut pas qu'on soit stigmatisé sous prétexte qu'on est en situation de handicap. Et encore une fois, collège, lycée, ça se passe hyper bien. Maintenant, on voit sur du post-bac, il y a encore un peu de chemin à faire, il faut encore bouger les lignes. En entreprise, ça fait peur. Les personnes qui sont en situation de handicap, ça fait peur. Mais là aussi, il y a des entreprises qui jouent le jeu. Là aussi, il y a des entreprises qui se sont rendues compte que ces enfants-là, en fait, ils ont une compétence, ils ont une spécificité. Et typiquement, ce qu'on disait il y a quelques instants sur Louise, en disant qu'elle faisait preuve de pugnacité, qu'elle se posait pas de questions, qu'elle allait de l'avant et qu'elle fonçait, eh bien, en entreprise, quand vous avez un collaborateur qui fait preuve de pugnacité, qui fait preuve d'abnégation et qui ne baisse jamais les bras, eh ben c'est un atout pour l'entreprise.
Oui, parce qu'il est motivé comme pas possible.
Exactement.
Bien que, je parle des choses qui vont pas dans le bon sens, Madame Brock, mais enfin, il y a beaucoup d'entreprises qui préfèrent payer une amende plutôt que respecter la loi. Mais enfin, sinon, je vais même parler aux Jeux Olympiques et Paralympiques. L'accès pour les handicapés dans le métro parisien. Bonjour. Le métro anglais, qui date d'avant le métro français, est davantage adapté qu'ici. Voilà. Donc, c'est une course d'obstacles, mais on est là pour les faire sauter.
Alors, sur les entreprises qui préfèrent payer une amende, je voudrais un petit peu nuancer le sujet. Parce qu'en fait, le problème, il est d'avoir amorcé la pompe. Encore une fois, au début, nos enfants, ils n'avaient pas accès à la scolarité. Donc, pas accès à la scolarité, ça veut dire pas de diplôme. Donc, pas de diplôme. Il n'est pas question de leur proposer un emploi, vu qu'ils n'ont pas de diplôme. Donc, le point de départ, ça a été ça. Ça a été de faire en sorte qu'ils puissent faire des études. Et des études supérieures, des études post-bac. Plus on aura d'enfants qui vont faire des études post-bac, plus on aura des enfants qui seront en situation de handicap diplômés, et plus les entreprises les accueilleront. Ça fait peur, c'est ce que je disais à l'instant. De là à dire qu'elles préfèrent payer des amendes, non, c'est aussi un problème d'offre et de la demande. C'est-à-dire qu'il n'y a pas tant que ça aujourd'hui d'enfants qui ont un bac plus 5, qui sont diplômés et qui sont en capacité de rejoindre les entreprises. Donc, je serai un peu plus nuancé.
Alors, à partir de vendredi fin d'après-midi, 36-37.
Ouais. Très bien.
Dès maintenant.
Dès maintenant.
Et après, même après, Je veux dire par là que le 7, le 8, etc., c'est, on peut continuer
bien sûr.
À envoyer des dons.
Téléthon.fr et le 10 janvier, allez au loto de Saint-Maur.
Ah oui, on vous attend nombreux avec des très beaux lots à gagner, des billets d'avion, plein de choses.
Ouais. Alors, il nous reste environ 5 minutes. Monsieur Véru de Béquillet.
C'est important, c'est participer.
Oui. Et alors, cette année, les ambassadeurs du Téléthon sont Noé, Paulin, Lucie et Maxence.
Oui.
Alors, je pense que c'est
des maladies différentes.
Ils sont représentatifs. Mmh. Ces familles-là, elles ont été choisies parce qu'elles sont représentatives de la situation de l'ensemble de nos familles. Mmh. On a Noé. Là, on est sur le but ultime. Il a eu un traitement. Ce traitement, il est né dans les laboratoires du Généthon. Donc, ce traitement, il est né grâce au don du Téléthon. Il a eu la possibilité d'avoir ce traitement dès lors que les symptômes sont apparus. Là encore, on a progressé puisque maintenant, il y a le dépistage à la naissance depuis le 1er septembre 2025. Donc, on n'attendra pas l'apparition des symptômes. Les enfants seront traités. Donc, Noé, c'est l'étape ultime. C'est ce qu'on voudrait faire pour les 7000 maladies rares. Ensuite, on a Paulin. Paulin, il est atteint d'une myopathie du chêne. On en parlait tout à l'heure. Là-dessus, on a des résultats extraordinaires. On a besoin maintenant de prouver l'efficacité pour arriver jusqu'au traitement. Donc, Paulin, il représente les familles pour lesquelles on a des résultats qui sont très prometteurs, mais pour lesquels il n'y a pas encore traitement. Ensuite, on a Lucie. Lucie, elle est représentative des familles pour lesquelles il y a eu en étude, on va dire en laboratoire, des résultats intéressants. Pour lequel on voudrait pouvoir continuer, on voudrait pouvoir passer à la phase préclinique et à la phase clinique. Et là, aujourd'hui, ce qui nous freine, c'est le manque d'argent. Et puis le dernier, c'est Maxence. Maxence, il est représentatif d'une part des maladies qui ne sont pas uniquement des maladies musculaires, puisque Maxence, il a la maladie de Danone, qui est une maladie qui n'est pas une maladie musculaire. Il a une atteinte, y compris cognitive, dans le cadre de cette maladie. Mais il est aussi représentatif, un peu à l'instar de Maxence, mon fils, représentatif de ces maladies où, en fait, on est au début de l'histoire. C'est-à-dire que on a identifié la cause, mais tout le reste du livre reste à écrire. Donc voilà, donc ces quatre familles, elles sont représentatives de l'ensemble de nos situations.
Voilà, donc 36-37, téléthon.fr, et ça, dès aujourd'hui.
Oui.
On n'a pas besoin d'attendre.
Non.
Et même après le 6, bon, et nous d'ailleurs, on va y revenir dimanche prochain pour en parler, insister là-dessus. Il faut continuer à insister.
Oui, et allez dans vos villes, il y a forcément une animation pour le Téléthon.
Informez-vous,
en France,
oui.
22 000 animations en France, dans 15 000 communes, donc il y a forcément une animation autour de vous qui va vous plaire.
Donc, vous allez dans les réseaux sociaux, et là, en fonction du département où vous habitez, même de la ville, il y a tout ce qu'il faut.
Allez sur le site téléthon2025.fr, et là, vous aurez la carte des 22 000 animations.
Voilà.
Alors, et sinon, 36-37.
Et 36-37.
Voilà, oui. Donc, on ne peut pas dire, on ne savait pas, on ne sait pas comment faire, etc. Pas de mauvaises excuses.
Non, et c'est bien d'emmener les enfants à la fête.
Mais oui,
c'est la fête de la solidarité. C'est bien pour les enfants aussi, mais c'est très important pour les enfants de commencer à être solidaires de leur enfance. Ouais. Je pense que c'est très important.
Monsieur Cyril Béquier, merci d'être venu. Madame Stéphanie Rock également, Tony Gam, Amalia. Bien entendu, on va continuer à parler. D'autant plus, c'est moi qui fais les infos demain et après-demain, très tôt. Donc, ne vous inquiétez pas, on va avoir des échos et mes collègues pendant la semaine et le week-end prochain. De toute façon, j'ai déjà demandé à Amalia, tout au moins, d'intervenir, même pendant mon programme, mais pas seulement, pour continuer à se battre et auquel dire la vie est devant. C'est pas derrière, je m'excuse. On l'oublie. Hein,
voilà. Et en direct, donc on va te remettre au nom des familles et des malades un diplôme pour te remercier et avoir un souvenir du Téléthon 2025. Merci beaucoup.
Bah écoutez, moi je ne sais pas quoi dire parce que j'ai l'habitude.
Oui, mais voilà.
Non, ce que j'ai dit, c'est que si je suis là, c'est parce qu'il y a vous. À savoir, la radio, c'est la vie à l'extérieur.
Ah ben.
Okay. Nous, on n'en vante rien. À la limite, on peut donner la parole à qui ? Rarement on donne la parole, ça, je pense que c'est mon devoir comme journaliste, mais c'est grâce à vous que je peux exercer ma profession. Et ça, je pense que pour moi, c'est le plus important.
C'est pour cela qu'on aimerait bien que Radio Alpha fasse comme avant. Non, mais c'était extraordinaire.
Mes amis, ça me dépasse. Bon, merci à tous. Merci. Et d'ailleurs, qui va nous relancer tout ce qu'on vient de dire, c'est Santa. C'est elle, la marraine du Téléthon 2025. Oui. Son appel, 20 secondes. Et moi, je reviendrai après 13 heures.
Bonjour, c'est Santa et je suis marraine du Téléthon 2025. Le Téléthon, c'est l'élan de vie des enfants, le courage des parents, la rage aussi, le talent des chercheurs et puis vous, votre générosité qui a déjà permis de vaincre des maladies. Le 5 et 6 décembre prochain, on ne lâche rien. On va continuer à faire bouger les lignes et on va donner encore plus fort. Faites un don au 3637 ou sur téléthon.fr.
Passagem de Nível, o encontro semanal de informação na Rádio Alfa.
Passagem de Nível.
Aos domingos, entre as 12 e as 14 horas, com Arthur Silva.
Segunda hora da Passagem de Nível, neste domingo, dia 30 de novembro, mais uma entrevista no quadro das eleições presidenciais que se realizam em Portugal no dia 18 de janeiro. Lembro, as comunidades portuguesas, estas votam presencialmente nos consulados ou nas embaixadas, consoante o país ou consoante o continente. Queria lembrar os ouvintes que já entrevistámos Luís Marques Mendes, apoiado pelo PSD, António Filipe, do PCP, António José Segura, apoiado pelo Partido Socialista, Jorge Pinto, do Livre, Catarina Martins, do Bloco de Esquerda. E hoje vamos ouvir a entrevista que realizámos ontem, no início da tarde, nos estúdios da Rádio Alfa, com Henrique Gouveia e Melo, independente. Ainda não responderam ao convite enviado pela Rádio Alfa, João Coutrinho Figueiredo, apoiado pela Iniciativa Liberal, e André Ventura Chega. Mas, precisamente, o Almirante, como muita gente ainda lhe chama, esteve ontem aqui nos estúdios da Rádio Alfa. Eleições presidenciais em Portugal, dia 18 de janeiro. As comunidades portuguesas votam presencialmente nos consulados ou nas embaixadas. Conosco, aqui nos estúdios, Henrique Gouveia Melo, candidato a Presidente da República, independente. Henrique Gouveia Melo, antes de mais, boa tarde e obrigado por ter vindo aqui aos estúdios da Rádio Alfa.
É um prazer estar aqui em França, uma das nossas maiores comunidades no estrangeiro, e estar aqui convosco e poder falar convosco.
Vou-lhe chamar às vezes Almirante, não leva mal, mas são hábitos aqui em França, porque o ministro continua a ser ministro a vida inteira e por aí fora o presidente também. Aqui em França atualmente há três, um no executivo e dois que já exerceram esse cargo. Vou-lhe fazer um pequenino de retrato seu, mesmo pequeno. Henrique Gouveia Melo nasceu em Quelimane, em Moçambique, a 21 de novembro de 1960, como quem diz, há 9 dias atrás. Festejou o seu aniversário, parabéns. E, dividiu a sua infância e adolescência entre Quelimane, São Paulo, no Brasil, e finalmente Lisboa, onde chegou em setembro de 1979, para ingressar na Escola Naval como cadete. E como desafio, e depois acompanhou a sua vida inteira, não é? Enquanto esteve na Armada, na Marinha, escolheu os submarinos para a sua especialização, sendo, na época, o único voluntário para isso. Bom, grande especialista dos submersíveis, assumiu diversos cargos superiores no seio da Marinha, da Armada e mesmo em estruturas europeias. Entre fevereiro e setembro de 2021, assumiu as funções de coordenador da Task Force para a vacinação contra a Covid em Portugal. Uhum. Nessa altura, não sabemos qual era a pessoa mais popular, mais conhecida, na medida em que nas televisões, quem é que havia? Almirante Henrique Gouveia Melo e António Costa, primeiro-ministro. Mas enfim, bom, e entretanto passou à reserva no dia 27 de setembro de 2024, há pouco mais de um ano, cessando nesse dia as suas funções militares. Vamos agora à sua candidatura. No manifesto à apresentação, que foi no dia 29 de maio deste ano, referiu que a situação em Portugal e no mundo exigiu que fosse candidato. Finalmente foi a sua experiência no tempo que passou quase diariamente com a classe política no poder que disse, obrigou a refletir, espera aí, eu como pessoa também tenho ideias, finalmente há coisas que se estão a passar aqui que talvez pudessem passar diferentemente. Não sei se estou a...
De alguma forma sim, mas tinha uma preocupação verdadeira com a mudança internacional e com as implicações que teriam no nosso país e na nossa política também, interna, e sentia que a classe política vivia quase que numa estagnação de ideias e de soluções, e nós, Portugal cresceu muito depois do 25 de Abril. Todos nós sabemos disso, depois com a entrada na União Europeia. Mas
no 25 de Abril tinha 13 anos.
Sim. Mas depois, a partir de 2008, entrou num período de estagnação. Diferentes crises. Tivemos uma crise da dívida.
A Troika.
É preciso perceber que nesse período perdemos grande parte da nossa capacidade de decisão, portanto, independência. Sofremos muito, as pessoas mais idosas, ou cortes...
Para os reformados, a nível dos salários.
A nível dos salários. E depois, logo a seguir, vem uma crise de saúde, que é a pandemia, em que eu tive a sorte de poder, de alguma forma, contribuir com o meu esforço para a solução dessa crise, através do processo de vacinação. E o que é que eu senti? Eu senti que, por um lado, o meu papel na Marinha tinha acabado e que, comparando o papel que eu podia fazer fora da Marinha, entrando na política, e o papel que eu podia fazer continuando na Marinha, esse papel na política poderia ser mais importante e mais determinante para o sucesso do país. Porque eu tenho uma ambição coletiva, eu acho que nós temos que ser muito mais do que somos. Acho que Portugal não está no seu melhor potencial e que nós podemos tirar muito mais de Portugal, para bem de todos nós. Portanto, eu basicamente...
Mas hesitou durante alguns meses, porque foi lançado um comitê de apoio à sua candidatura. Gouveia Melo hesitou durante um certo tempo.
Sim,
porquê?
Hesitei porque a primeira decisão foi sair da Marinha. A segunda decisão foi, devo ou não concorrer? E depois, a concorrer, como é que deve ser o meu posicionamento? E uma das coisas que decidi é, eu, para ser verdadeiramente o que sou e manter a minha integridade, eu tenho que, de alguma forma, não ter dependências de ninguém. Claro que eu tenho sempre, todos nós temos sempre alguma dependência de pessoas que nos ajudam e que são nossos apoiantes, mas não é isso. Dependências de grupos ou organizações que nos queiram, de alguma forma, dirigir para um determinado fim e afunilar o nosso comportamento ou as nossas soluções. E a primeira organização que tentou fazer isso, através do seu apoio, não que tivesse uma ideia de me controlar, mas genuinamente, eventualmente, parte da organização quis me dar o seu apoio, eu não aceitei, porque achava que era uma organização, não eram só as pessoas. Eu não queria ter nada a ver com agendas dessas organizações.
Mas, Gouveia Melo, é a forma também como encara a função de Presidente da República, porque indiretamente, não sei se é uma crítica ou não, ao atual Presidente Marcelo Rebelo de Sousa, mas aprecia a Presidência, Dr. Mário Soares. Significa, bom, tudo isso levou a ver, como Presidente da República, a função tem que ser diferente, tem que ser...
Sim, eu quando falei do Dr. Mário Soares, já expliquei isso, eu aprecio o homem como aprecio o General Romalianos. O que é que isso significa?
Sim, relativamente à defesa da democracia...
Exatamente. Eu entendi a pergunta como, de todos os presidentes, quem é que aprecia mais? E não, de todos os presidentes, qual é o modelo de presidência que quer fazer? E pronto, isso é uma diferença muito grande. E eu respondi que quem eu apreciava mais, enquanto pessoa, e o seu papel histórico em Portugal, era o Dr. Mário Soares e o General Romalianos, por motivos diferentes. Mas, basicamente, foram os dois que deram a democracia a Portugal. Que garantiram que, depois de 25 de Abril, nós não caíssemos numa ditadura de esquerda e, portanto, saímos de uma ditadura para cair noutra. Agora, claro que o Dr. Mário Soares também fez muitos erros ao longo da sua... Teve uma vida política muito longa. O erro da descolonização, não da descolonização, porque ela tinha que ser feita, mas...
Da forma
como foi conduzida, e eu sou uma das vítimas desse processo. Eu não, a minha família, eu era muito novo, mas a minha família. Portanto, essas são as partes negativas, mas a parte positiva foi ter tido a coragem, no momento em que havia militares e grupos de extrema esquerda que diziam que nós devemos meter os fascistas no campo pequeno, os traidores no campo pequeno, e fuzilá-los. As pessoas hoje já esqueceram desses tempos. Eram tempos mesmo muito duros. Foi preciso ter coragem. E eu admiro a coragem das pessoas.
Gouveia Mel, se podemos avançar um bocadinho, atualmente há uma pré-campanha para as presidenciais, porque é necessário que as 7.500 assinaturas sejam feitas, recolhidas, depois isso passa pelo Tribunal Constitucional e por aí fora. Mas teve a ocasião de dizer que certas candidaturas, ou pré-candidaturas, confundem as presidenciais com as eleições legislativas. Sim. Pode explicar?
É muito simples. A coisa básica, o erro básico, não é? Ou o pecado original, é que estão a transformar as presidenciais numa luta político-partidária. As presidenciais não são uma luta político-partidária. Portanto, a lógica político-partidária não é uma lógica para a Assembleia da República e depois para a formação do governo. Mas não é uma lógica que deva ser trazida para as presidenciais. A presidência tem que ser aquele sítio que une os portugueses e que não separa portugueses através de facções e de ideologias. Portanto, deve ser um cidadão que, na minha muito modesta opinião, que reúna um consenso o mais alargado possível da sociedade e a confiança o mais alargada possível da sociedade. Para quê? Para ser o moderador do sistema. Uhum. Para ser, de alguma forma, o fiel da balança do sistema. Porquê? Porque o sistema pode ter desequilíbrios. E se não tiver ninguém que seja o fiel da balança, esses equilíbrios podem se tornar perigosos para a própria democracia. Ora, nós não queremos nenhuma marionete do governo na presidência. Mas também não queremos alguém que vá para a presidência com o único objetivo de, na primeira oportunidade, derrubar o governo para poder convocar eleições. Nem queremos ninguém que queira mudar o regime a partir da presidência.
Portanto, respeitar a Constituição.
É isso que eu digo, quer dizer, eu ofereci-me para este caminho e a minha candidatura é respeitar a Constituição, ser equilibrado. Eu digo de forma muito simples três palavras: garantir a independência e a democracia, primeira coisa. Segunda coisa, ser exigente com a governação, ou seja, o povo escolhe a governação que quer, mas depois o povo não tem forma de se manter exigente com a governação. E a presidência tem que estar a fazer uma pressão constante para que a governação seja responsável, resolva problemas, isso chama-se exigência. E a terceira coisa é impulsionar a mudança. Porquê? Porque nós temos que mudar. O país tem muito mais potencial do que está a desenvolver. Nós, esta comunidade que vive em França, o PIB per capita, não é? O que nós desenvolvemos por pessoa em Portugal são cerca de 70%, 60% a 70% do PIB per capita que se desenvolve em França. Porquê? Temos algum problema genético? Temos algum atraso? Não, nós temos a possibilidade de crescer e crescer bem. O que é que aconteceu? Muitos fundos europeus foram perdidos em Portugal sem fazerem o crescimento. Quer dizer, desenvolveram sempre qualquer coisa.
Construiu-se autoestradas e esqueceu-se o interior do país.
Temos um país desertificado no interior. Um país muito desigual. Super concentrado em três cidades. E é esse país que precisa desenvolver o seu potencial. E nós precisamos verdadeiramente de mudar a nossa estratégia e a nossa política.
Gouveia Mel, nesta campanha disse ainda que fala-se de tudo menos dos problemas dos portugueses e do país. Até de uma lei sobre a burca se fala. Ora, finalmente, a questão da saúde, que para si é primordial. Sim. Da educação, da habitação ou ainda dos baixos salários. Como é que é?
Não, é precisamente isso. Repara, eu ainda não me pronunciei sobre a lei, sobre o conteúdo da lei da burca.
Ainda não foi aprovada.
Ainda não foi aprovada. E não me pronunciei porquê? Porque eu não quero contribuir para um distrator da nossa política. Neste momento, temos problemas graves na saúde. A solução que se está a tentar implementar não parece a melhor. Porquê? Porque temos uma saúde desorganizada, deshierarquizada, não há hierarquia, não há responsabilidade. E então agora, nesse processo, vou-lhe acrescentar uma unidade para ver se há fraudes. Quer dizer, isso só vai criar ainda mais confusão para além. E no fim, é uma confusão total e a resposta aos portugueses não existe. É isso que vai melhorar a resposta aos portugueses na saúde? Eu que tenho quase a certeza, pode ser que me engane muito, mas tenho quase a certeza absoluta que não. Na habitação, o problema é multifatorial, tem que se fazer simultaneamente um conjunto de coisas, não é só uma coisa. O governo fez uma ou duas coisas, grandes parangonas na televisão, nos horários nobres, mas na realidade continua a crescer o preço das casas. E nós não estamos a resolver esse problema. A nossa juventude tem que emigrar. Nós estamos a perder talento. Portanto, a nossa educação também, ainda é uma educação também muito tradicional.
Há muitos professores no desemprego e milhares de alunos sem aulas.
Claro, mas repare, nós, só 40% dos nossos alunos que acabam o secundário é que vão ter um curso superior. Nós estamos a perder um potencial humano gigantesco numa sociedade muito competitiva, a nível internacional, em que o conhecimento faz parte da sobrevivência neste momento. Portanto, são todas essas coisas que estão por fazer. E por isso é que eu digo que a terceira perna da presidência é impulsionar a mudança.
Governo, se podemos avançar, o tempo não para. Relativamente às comunidades portuguesas, a eleição presidencial, como eu disse no início, é presencial. Minha pergunta, sim, quem é que vai fazer centenas de quilómetros, centenas, para ir votar, porque não experimentar o voto eletrónico?
Olha, eu sou totalmente adepto do voto eletrónico. E sou porquê? Porque o que há, é um receio do peso das comunidades nas eleições. E tenta-se minimizar esse receio através de dificuldades burocráticas ao processo. Mas, afinal de contas, é isto que eu digo. Quer dizer, nós, quando somos portugueses, temos todos os mesmos direitos ou não perante a lei e os mesmos deveres também. Se temos, independentemente de onde a gente esteja, tem o direito de votar como todos votam. E, portanto, o que é que está a acontecer? Se digo que a votação é presidencial em territórios enormes, vamos dar um exemplo, Brasil,
África do Sul,
com 3 ou 4 consulados, é impossível fazer essa votação se eu tiver lá 500 mil pessoas ou 400 mil pessoas.
Os portugueses que vivem na Martinique têm que pegar no avião para vir votar a Paris.
Isso é um exemplo. Não faz nenhum sentido.
Gouveia Melo falou dos mesmos direitos, mesmos deveres. Relativamente ao ensino, o ensino português do estrangeiro está a desaparecer. Professores mal pagos. E, no entanto, é um direito constitucional.
Mais do que um direito. É pouco inteligente o que fazemos. As nossas comunidades no estrangeiro são um potencial gigantesco económico e até para a segurança interna do país. Porquê? Porque estão noutras comunidades. As nossas comunidades são muito bem recebidas nas outras comunidades. Espalham a nossa cultura, a nossa língua e são pontos de contacto para negócios. São pontos de contacto entre culturas de países diferentes e nós não estamos a potenciar isso. Nós temos depende das estatísticas, mas pelo menos 1/3 dos portugueses vive fora do território.
Fala-se de 5 milhões, mas enfim.
Por isso é que eu estou a dizer que as estatísticas variam. Mas se for 1/3 dos portugueses que vivem fora de Portugal, nós estamos a falar entre 2 a 3 milhões de pessoas, no mínimo. E essas pessoas espalhadas pelo mundo não são um potencial gigantesco para a própria comunidade, como um todo. Afinal, o que é Portugal? Portugal, para mim, é uma grande identidade. Um português que viva no estrangeiro é tão português como um português que vive em território nacional. Aliás, é a diferença entre os portugueses que descenderam do Baixo da Gama ou dos Velhos de Restelo. Não estou a dizer que quem vive em Portugal seja Velho de Restelo, mas estou a dizer que os que saíram são pessoas que foram procurar uma vida melhor, são pessoas muito mais... pelo menos com coragem de ter tomado esse passo.
Foi a fome, a miséria, igualmente também o regime que existia na altura, que obrigou...
Essas pessoas a saírem. Portanto, Portugal é muito maior do que as pessoas que vivem no território. E se nós entendermos isso, Portugal então é mesmo muito maior, com muito mais capacidades para Portugal, para desenvolver Portugal. Por isso é que estou a dizer que nós não estamos a atingir o nosso máximo potencial. Nós recebemos verbas da Europa. Os fundos europeus.
E as remessas dos imigrantes.
Não, mas é isso que eu ia dizer. Remessas dos imigrantes estão ao nível dos fundos europeus. Portanto, eu às vezes não percebo
Há portugueses de primeira e portugueses de segunda?
Parece que há. Eu não queria que houvesse. Os portugueses são todos portugueses. Primeiro e segundo, onde vivem, onde desenvolvem as suas atividades. E isso contribui para a grande comunidade que é Portugal.
O Gouveia Melo, em instantes, falou precisamente de... Aliás, tem uma relação com os imigrantes. Ou portugueses que foram assassinados aqui, vítimas do racismo. Hoje em Portugal assiste ao racismo e numa entrevista, tenho a impressão que foi à Agência Lusa, já não estou recordado, focou um episódio que viveu na altura em que foi visitar militares portugueses que estão estacionados, ou estavam estacionados, na Lituânia, salvo erro da minha parte. Eu gostaria que rapidamente nos contasse esse episódio.
Bom, rapidamente é simples, quer dizer, nós, nas assurance measures, ou seja, nas medidas de segurança dentro da NATO, destacámos uma força de fuzileiros por 4 meses na Lituânia. E essa força, os nossos fuzileiros têm todas raças.
Não é? Origens.
E origens, portanto. E nessa força estavam elementos africanos, que são portugueses como qualquer outro português. Não é? E os lituanos, um dos oficiais, estava a almoçar comigo, estava a ver uma fila dos nossos militares e apontou: ah, estão ali dois, mas vocês portugueses têm... Ele disse blacks, né? Quer dizer, pretos. E eu disse, mas eu olhei para a fila e disse, eu não estou a ver nenhum preto, eu só vejo verdes, que é o nosso camuflado, era verde, não? Só vejo verde. Onde é que você está a ver preto? Ele ficou um bocado, começou a ficar atrapalhado e começou a dizer, não, mas vocês... Disse, pá, ouça, nós viemos 6 mil quilómetros de distância para vos ajudar e você consegue ver na nossa farda tons diferentes. Eu só vejo verde, pá. E o senhor devia estar agradecido em vez de me estar a fazer esses comentários. Basicamente foi este.
Gouveia Melo, no caso de ser eleito, qual pensa que poderá ser a sua ligação com as comunidades? Sabendo, de antemão, tudo o que acabamos de dizer, sim, é que o Presidente da República tem poderes limitados, ainda que avançou certo uma de coisas que o Presidente pode e deve fazer. Mas, relativamente às comunidades.
Olha, eu já pertenci a uma comunidade, fui imigrante... É imigrante no Brasil e imigrante no Brasil, né, do ponto de vista brasileiro. E pertenci à comunidade, sei o que é sentir Portugal quando nós estamos fora. Sei o que é saudade e sei qual é o potencial destas comunidades. Portanto, eu farei tudo o que tiver ao meu alcance, mesmo tudo, para dar dignidade à comunidade, para empoderar a comunidade e para transformar a comunidade num braço avançado de Portugal no estrangeiro.
2 dias aqui em Paris, na região parisiense, esteve na Suíça.
Pensa... No Brasil.
No Brasil, igualmente, visitar ainda alguns países da comunidade, ainda que a sua presença em Portugal na campanha eleitoral, sobretudo agora com os debates televisivos.
Eu tenho muita dificuldade em mover-me neste momento por causa do calendário e, como sabem, eu não tenho apoios partidários no... Eu tenho um pequeno grupo de pessoas que se reuniu à minha volta e que me apoia e pronto, e tenho muito mais dificuldades, mas faço tudo o que puder para visitar as comunidades, não pelo voto em si, porque, como sabe, o voto, fruto das circunstâncias que acabamos de falar, nem é muito expressivo na votação geral, mas por respeito e para sinalizar a importância das comunidades para Portugal.
Gouveia Melo, muito obrigado, e eu tenho o hábito de dizer, votar é um direito, mas antes de mais um dever, não?
Também. Porque se nós achamos que podemos decidir da nossa vida e do nosso futuro, é votando que decidimos de quem também pode decidir da nossa vida e do nosso futuro.
Eli Gouveia e Melo, muito obrigado. Eu queria relembrar para os nossos ouvintes que já realizamos um certo número de entrevistas com candidatos às presidenciais do dia 18 de janeiro de 2026. O voto é presencial aqui em França, nos consulados e certos sítios. Outros países é nas embaixadas. Já entrevistamos no dia 5 de outubro Luís Marques Mendes, dia 2 de novembro António Filipe e António José Seguro, dia 16 de novembro Jorge Pinto, nesse mesmo dia Catarina Martins. Connosco está aqui Gouveia Melo. Ainda não responderam ao convite da Rádio Alfa João Coutrinho Figueiredo e André Ventura. Aqui fica o registro e, como disse um colega meu, fique atento às próximas atualizações. trata do tema Les Inondations de Murcy, do compositor José Viana da Mota, interpretação de quem? De João Costa Ferreira. João Costa Ferreira, que com Bruno Beltoise vão participar num concerto de Natal ao som do piano português. Tudo isto decorre na quinta-feira, dia 4 de dezembro, a partir das 20 horas, na Mairie do 17e. E, pois bem, entrevistámos João Costa Ferreira e começámos por realçar precisamente a colaboração, o duo que ele faz com o Bruno Beltoise.
Bom dia, Arthur, e muito obrigado por este convite. Sim, faz agora praticamente uma década que começámos a trabalhar em conjunto em torno do repertório para piano a quatro mãos. E este, portanto, é mais um dos inúmeros concertos que nós temos vindo a fazer, nomeadamente em torno do repertório português composto para esta formação de piano a quatro mãos.
Concretamente, o que é que vocês vão levar à Mairie do 17e arrondissement de Paris?
Será um programa inteiramente dedicado à música dos compositores portugueses. Começaremos por uma primeira parte a solo, em que eu tocarei a solo, uma obra de António Fragoso, e depois uma obra de José Viana da Mota. Seguir-se-á uma obra para piano a quatro mãos, uma composição de Sérgio Azevedo, que se chama Duas Borboletas para Olga. De seguida, numa segunda parte, o pianista Bruno Beltoise fará uma parte a solo, dessa vez, portanto, ele tocará obras de Luís Costa e Armando José Fernandes. E, para terminar este concerto, tocaremos então a balada para uma criança que vai nascer do compositor português António Vitorino de Almeida.
O facto de este concerto ter sido intitulado Concerto de Natal, para si tem uma simbologia. Esta data é ao mesmo tempo, bom, é música dita clássica, de música séria, entre aspas, portuguesa, que é divulgada aqui em França. Eu acho que é um trabalho que vocês têm feito ao longo, bom, como disse há instantes, pelo menos os dois há uma década atrás.
Sim, este concerto foi pensado pelo Consulado-Geral de Portugal em Paris, foram eles que fizeram o convite, em parceria com o Instituto de Camões e com a Câmara do 17e Arrondissement. E foi pensado, portanto, fazer um concerto, uma espécie de concerto de pré-natal, obviamente virado em particular para a comunidade portuguesa, mas não só, está aberto obviamente a qualquer pessoa, mas foi pensado por eles o conceito para fazer um concerto em que se apresentam obras de compositores clássicos da área de música clássica portugueses, que são muitas vezes compositores que são esquecidos, que são ignorados e que, portanto, que valem a pena serem interpretados, ouvidos, escutados. E foi uma ideia que partiu, portanto, do consulado para, portanto, apresentar obras de compositores portugueses, dar-lhes destaque no quadro de um concerto de pré-natal.
Eu lembro, dia 4 de dezembro, a partir das 19 horas, na Mairie do 17e arrondissement, 1620, Rue des Batignolles, em Paris, 17. Isto fica praticamente a dois passos do Consulado-Geral de Portugal, em Paris. João Costa Ferreira é o grande especialista mundial e fez o seu étimo de estudos sobre o José Viana da Mota. Aliás, penso que vão interpretar também uma obra do José Viana da Mota. Precisamente, todo esse trabalho de divulgação da música dita clássica portuguesa aqui em França, há anos e anos que, igualmente com o Bruno Beltoise, está a trabalhar nesse sentido, de maneira que vocês sentiram o apoio da parte das autoridades portuguesas, não só aqui em França, mas sobretudo também em Portugal?
Temos sentido cada vez mais, eu peço-me a mim que as instituições têm debruçado e compreendido cada vez mais o interesse que tem de reabilitar e dar destaque à obra dos compositores portugueses. Para lhe dar um exemplo, durante os meus estudos na Universidade, na Sorbonne, portanto, estudos de licenciatura, mestrado e doutoramento, durante todos aqueles 8 anos, apenas uma vez, numa aula, foi referido a obra de um compositor português, que foi, neste caso, o Luís de Freitas Branco. Ora, há imensos outros compositores portugueses de várias correntes estéticas muito importantes que estiveram presentes em toda a Europa, como, compositores como Fernando Lopes Graça, compositores como Armando José Fernandes, justamente, Luís Costa, José Viana da Mota, e que muitas vezes são postos de lado quando, na verdade, eles também tiveram um impacto histórico naquilo que é a história da música, na evolução das linguagens, dos estilos, muito importante. E, portanto, parece-me a mim que o trabalho que nós temos vindo a fazer, não somos os únicos, obviamente, mas o trabalho, este tipo de trabalho, tem vindo a ser cada vez mais valorizado e as instituições têm-no apoiado cada vez mais. Isto nota-se através, por exemplo, dos concursos, muitas vezes, que agora são abertos, seja pela Direção-Geral das Artes, seja pela Fundação da Gestão dos Direitos dos Artistas. Vê-se cada vez mais projetos desta natureza serem premiados, porque, de facto, trazem algo de novo, que já existe, na verdade, ou que já existia, mas que era ignorado ou esquecido. E, portanto, sim, de certo modo, sinto que, tanto em Portugal como em França, este tipo de projetos tem vindo a ter cada vez mais destaque e a ser valorizado cada vez mais pelas instituições. Em Portugal, obviamente, que há um interesse particular pela música dos compositores portugueses, isto é, as instituições vão, obviamente, dar primazia, digamos assim, a projetos que tenham uma relação com a história da música portuguesa ou dos compositores portugueses. Mas também acontece o mesmo em França. Para lhe dar um exemplo, por exemplo, vou lançar, ou acabei agora de lançar, justamente com o Bruno Beltoise, uma vez mais, um disco de piano a quatro mãos, de obras de uma compositora francesa. Um projeto que foi também bastante apoiado, por exemplo, uma fundação Singer Polignac, que apoiou, que premiou já este disco, e ele ainda nem sequer tinha saído e já estava a ser premiado, precisamente por esse aspecto inédito de dar a conhecer obras de uma compositora francesa. Portanto, tanto do lado francês como do lado português, as instituições têm reconhecido este tipo de trabalho como sendo algo de fundamental para a reabilitação de um património.
Igualmente, dar a compreender, há certas pessoas que parece que fazem orelhas moucas, não é? É que a música dita clássica é para todo o público, não é para uma elite, João Costa Ferreira.
Pois, isto de facto é uma incompreensão. Muitas vezes pensa-se que a música clássica que é algo de inacessível. Eu não o acho. Aliás, uma grande parte dos meus projetos debruça-se sobre aquilo que eu chamo de mediação cultural, que é muito, muito útil para, precisamente, acabar com essa espécie de fosso que existe entre a cultura dita popular e a cultura dita elitista. De facto, esta música, já na época, a maior parte dela, era composta para o público todo, não era composta para uma elite, porque não faz assim muito sentido pensar-se que hoje essa música está reservada para uma certa casta, uma certa classe social. Isso é, de facto, preciso acabar com essas barreiras, e como as pessoas poderão ver ou ouvir no concerto do dia 4 de dezembro às 19 horas na Câmara do 17º Arrondissement, vão ver que a música clássica dos compositores portugueses é muito agradável, é muito fácil de ouvir, gera as mesmas emoções ao mesmo nível que muitas composições de outros compositores. Portanto, é uma música muito acessível e que não está rotulada, à qual não está rotulada, em todo o caso, um perfil, uma classe social, uma casta, obviamente.
João Costa Ferreira, muito obrigado, e damos encontro no dia 4, João Costa Ferreira e Bruno Beltoise, precisamente, na mairie do 17º arrondissement, a partir das 19 horas. Muito obrigado, João Costa Ferreira.
Muito obrigado, Artur Silva, uma vez mais, um abraço.
extrato do tema Balada para uma Criança que Vai Nascer, de António Vitorino de Almeida, que faz parte igualmente do programa deste concerto de Natal para piano português. E eu estou a dizer adeus, mas para já, bom, meus amigos, Sérgio Godinho, dá-me lá uma ajudinha, pá.
Agora eu vou-me embora, embora a dor não queira já ir embora. Agora eu vou-me embora e parto sem dor. E parto dentro de momentos, apesar de haver momentos em que dentro a dor não parte sem dor. E agora eu vou-me embora, embora a dor não queira já ir embora. Agora eu vou-me embora e parto sem dor. E parto dentro de momentos, apesar de haver momentos em que dentro a dor não parte sem dor. E agora eu vou-me embora, embora a dor não queira já ir embora. Agora eu vou-me embora e parto sem dor. E parto dentro de momentos.
Obrigadinho, Sérgio Godinho. És mesmo do Ronda, rapaz. Bom, obrigado a Manuel Alexandre. E bah, não sou eu que eu digo que sou chuto e putapés. É verdade, não sou o único.
Passagem de Nível, o encontro semanal de informação na Rádio Alfa. Passagem de Nível. Aos domingos, entre as 12 e as 14 horas, com Arthur Silva.